Chapitre 72. Minuit 42. En passant ses doigts le long du montant d'une étagère, Thornton actionne un mécanisme, et le meuble rempli de cartes marines roulées se décale avec une parfaite fluidité. Sous le regard ébahi de Reynard, se révèle alors une porte, enchâssée dans la roche et renforcée de ferrures. Chris s'était imaginé que, dans le meilleur des cas, il serait obligé de parcourir des kilomètres dans la lande afin de rallier un possible accès. Certainement pas qu'il y en aurait un caché directement dans la tanière du doyen. L'Écossais plonge la main dans son col pour empoigner la clé de bonne taille suspendue à son cou. Grâce à elle, il ouvre l'ancestrale serrure parfaitement entretenue. En repoussant l'épais battant, il se tourne vers Christopher. Mon garçon, je vous préviens, ni vous ni moi ne ressortirons indemnes de ce que nous allons traverser. Nous le devons pour Edward. Existe-t-il meilleur motif pour agir que de vouloir sauver la vie d'un gamin ? Le doyen ne répond pas. Saisissant sa lampe à pétrole à bout de bras, il pénètre dans l'obscurité du passage. Chris le suit et note aussitôt le parfum de terre et de poussière, ainsi que l'hygrométrie différente. La clarté de la lampe n'éclaire que les abords immédiats, et se perd rapidement dans ce qui semble être un couloir aménagé comme une galerie de mine. Le tunnel est assez large et régulièrement étayé par des portiques de poutres massives qui supportent le plafond fait de planches. Une première porte se profile dans la paroi de droite. Le doyen s'arrête devant. « Continuez tout droit, ne perdez pas de temps. »« Vous ne venez pas ?»« Je dois activer l'éclairage. » »« Et de toute façon, je vous ralentirai. »« L'éclairage ?» Allez, filez. Vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a que deux embranchements. Empruntez chaque fois le couloir de gauche, vous arriverez directement à la grotte. Vous trouverez sur place les outils que j'avais utilisés pour murer et maquiller le passage après l'accident de Masterson. Je vous rejoins aussi vite que mes jambes me le permettront. Entendu. Thornton lui tend sa lampe et disparaît dans la nuit de la pièce. Reynard s'élance aussitôt en direction de la côte. Dans le halo lumineux restreint, il prend garde de ne trébucher sur aucun obstacle, mais le sol de terre battue est lisse et la structure régulière. Son cerveau est en ébullition. Il est en train de courir quelque part sous la lande, dans un réseau souterrain secret que tout le monde s'est acharné à découvrir en vain depuis des siècles. Qui l'empruntait et pourquoi? Un claquement sec résonne tout à coup, dans la galerie, et les vieilles ampoules électriques accrochées aux poteaux de soutènement s'allument les unes après les autres dans une série de grésillements. C'est subitement l'ensemble du tunnel qui se trouve mis en lumière, laissant Reynard sous le choc. Il prend maintenant conscience de la longueur du passage qui serpente dans les tréfonds de la baie. L'heure de la marée haute est dépassée, et malgré la terreur de ce que cela pourrait impliquer dans la grotte, Christopher ne peut s'empêcher de l'oublier un instant, tant il est éberlué par ce qu'il découvre. Sans ralentir l'allure, il mesure l'étendue de l'ouvrage. À quel niveau peut-il se trouver désormais par rapport à la surface? Sous quel site, sous quelle maison est-il en train de courir comme un marathonien? Le premier embranchement se présente et il suit les directives de Thornton sans hésiter. Plus loin, il remarque une nouvelle porte sur sa droite, puis une autre, plus large, et à deux battants. Même si la tentation est grande, il n'a pas le temps de s'attarder. Chris ne perd pas un instant son objectif de vue, mais il aura tout de même quelques questions à poser à Thornton. Au deuxième embranchement, la voie de gauche est d'autant plus logique à suivre que celle de droite est complètement obstruée par des éboulis, au bout de quelques mètres. Chris accélère, le temps presse. Quelques foulées plus loin, le souterrain se modifie. Ce n'est plus dans une galerie étayée que Reynard cavale désormais, mais dans un tunnel taillé dans la roche. Plus de piliers ou de portiques en bois, mais un boyau creusé. Certains tronçons tirent profit des failles naturelles, mais l'essentiel a été aménagé à la main, comme en témoignent les innombrables traces de burin sur les parois. La pente descendante s'accentue, et Chris ne tarde pas à atteindre le cul-de-sac auquel il s'attendait. Il ralentit et s'immobilise devant ce qui se dresse devant lui. Essoufflé, il pose sa lampe au sol. Le passage est barré par un grossier remblai de pierrail qui s'élève à plus de la moitié de sa hauteur, prolongé jusqu'au plafond par un assemblage de pierres renforcé par d'épais contreforts de bois. Au pied de ce mur, une petite charrette de portage et quelques outils ont été abandonnés tels quels, comme si les ouvriers venaient juste de quitter le chantier. Une pelle, une pioche et une barre à mine sont appuyées contre le flanc rocheux. Chris s'approche du mur renforcé. La grotte se trouve juste derrière, et Edward aussi. Sans hésiter, il s'empare de la pioche, grimpe sur le remblai et commence à s'en prendre aux pièces structurantes. Il multiplie les coups, grognant à chaque fois. Laborieusement, il parvient à dégager un premier montant, puis un second. Il hésite sur celui auquel il doit ensuite s'attaquer, lorsque la voix de Thornton résonne derrière lui. « Retirez la petite traverse, sur la gauche. C'est l'endroit le plus fragile. Vous devriez ensuite pouvoir ouvrir un passage. » Le doyen attrape la barre à mine et escalade le remblai pour prêter main forte à Rognard. Côte à côte, les deux hommes prennent rapidement leur cadence pour taper chacun à son tour. Force est de constater que l'Écossais fait preuve d'une belle vigueur. « Je ne m'attendais pas à rouvrir ce passage un jour, » confie-t-il. « C'est vous qui avez construit ce mur ?»« J'ai été obligé. Lorsque Mark Masterson est mort, il était tout près de découvrir le souterrain. J'ai honte de l'admettre, mais ça a été une chance qu'il se prenne un éboulement avant de déboucher dessus. » Ni l'un ni l'autre ne relâche ses efforts. Entre deux frappes, Chris jette un coup d'œil à son voisin. « Vous vous doutez que j'ai pas mal de questions ?»«
Forcément, » ricane Thornton.
« En décidant de vous amener ici, je savais à quoi je m'exposais. Ne vous en faites pas, j'ai l'habitude d'assumer mes décisions. » « Vous connaissez donc le secret de la baie. Vous l'avez toujours connu. Bien malgré moi, je vous l'assure. Les secrets pèsent toujours très lourd pour ceux qui les portent, d'autant plus s'ils endossent la charge seuls. » Sous les impacts, le bastin de bois vient de se désaxer. « Comment préférez-vous m'affranchir, Monsieur Thornton ? Je vous bombarde de questions ou voulez-vous me livrer par vous-même ce que vous savez ?»« Commencez par m'appeler Duncan, c'est mon prénom. Personne ne m'a appelé ainsi depuis des lustres. » »«
Avec plaisir. »
La pièce de bois est sur le point de se rendre. Thornton empoigne sa barre à mine, tel un harpon, et s'en sert pour faire levier. C'est lui qui, cette fois, lance un regard à son cadet. « Êtes-vous certain d'être de taille à entendre la véritable histoire de Kilthorpe ? On ne le saura qu'après. Croyez-moi, ce n'est pas évident. C'est uniquement à vous que je pense, en vous mettant en garde. Merci, mais je ne suis pas impliqué d'aussi près que vous, Duncan. Cela me touche moins. En êtes-vous si convaincu ? » En guise de réponse, Chris sourit, davantage par complicité désabusée que parce qu'il se sent sûr de lui. Thornton lui fait signe de s'arrêter de cogner. « Reculez, je vais finir. L'autre côté est rempli d'eau. La moindre percée risque de se transformer en raz-de-marée. La mer va se déverser ici. Ne le prenez pas mal, mais je suis le plus leste. C'est vous qui devriez vous éloigner. J'ai bâti cette paroi de mes propres mains, je sais ce que je fais. » Le ton ne souffre aucune objection. Chris obtempère et descend du remblai. Alors que son aîné frappe de façon plus précise, il lui demande « Le pouvoir que détenaient les Kinloch était-il réellement à même de faire naître ou d'anéantir des royaumes ?» Il était capable de bien plus que cela. Son coup de barre à mine fissure une pierre, qui, sous la pression de l'eau accumulée de l'autre côté, saute comme un bouchon. C'est un débordement d'eau de mer qui jaillit aussitôt avec une redoutable vigueur. Le flot surpuissant élargit instantanément la brèche en entraînant avec lui d'autres blocs. La cataracte s'engouffre par le haut du mur en envahissant la galerie. Bien qu'à bonne distance, Rognard est immédiatement éclaboussé et, se protégeant des projections avec ses bras, a juste le temps de voir Thornton se faire balayer comme une brindille par le tumulte du torrent qui s'abat sur eux.